Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous sommes très heureux de vous recevoir. C'est un véritable plaisir et même un honneur de vous recevoir tous les deux à la librairie, vous dans notre studio parisien et moi à Bordeaux, pour parler de derniers livres auxquels vous avez tous les deux participé. Je vais rapidement vous présenter. Martin Aurel, vous êtes professeur d'histoire médiévale à l'université de Poitiers. Vous dirigez le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale et vous êtes un fin connaisseur des légendes arthuriennes, puisque vous leur avez consacré déjà plusieurs ouvrages, la légende du roi Arthur chez Perrin. On peut aussi citer le livre Camelot, toujours chez Perrin, qui est une mise en abîme de la série d'Alexandre Astier, ou encore votre dernier livre Excalibur, du Randal et Joyeuse, où vous parlez de cette chevalerie, mais pas que, aux éditions PUF. À côté de vous, on peut voir Michel Pastoureau, qu'on ne présente plus. Vous êtes historien, directeur d'études à l'École pratique des hautes études en sciences sociales, et vous êtes vraiment un spécialiste de la symbolique, de l'histoire culturelle des couleurs, des emblèmes également, de l'héraldique et de l'histoire culturelle des animaux. Vous êtes ici tous les deux pour nous parler du dernier livre sur lequel vous avez travaillé et qui sort aux éditions Quarto chez Gallimard, Les Chevaliers de la Table Ronde, romans arthuriens, qui est vraiment un hommage passionné, on peut dire, à ces légendes millénaires, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'une anthologie de textes, il s'agit de les remettre en contexte, de les mettre en abîme, puisque vous introduisez chacun de ces romans, on pourra en parler. L'ouvrage s'ouvre sur une préface écrite à quatre mains, dans laquelle vous remettez en contexte l'histoire de ces légendes, puisque ces légendes ont une histoire, il ne s'agit pas d'un bloc monolithique. Et la force de ce bouquin tient aussi du fait qu'il est richement illustré. Il y a une iconographie exceptionnelle, je me permets d'en montrer quelques-unes, qui jalonnent le propos, qui jalonnent les romans. J'en ai sélectionné. Donc une iconographie de très grande qualité, avec une qualité d'image exceptionnel. Je me permets aussi de montrer celle-là, qui est vraiment magnifique. Voilà. Et le tout est enrichi d'un dictionnaire rédigé par Monsieur Pastoureau, un dictionnaire des personnages arthuriens de langue française, et également d'un texte de Martin Aurel, Le roi Arthur, un personnage politique. On trouve également dans ce livre une chronologie illustrée qui permet de replacer facilement ces romans dans le contexte historique dans lequel ils ont été rédigés. Voilà pour ce qui est de l'objet en lui-même. Peut-être souhaitez-vous apporter quelques précisions quant à la réalisation de ce projet. Comble-t-il un manque éditorial? Quel en était le but? Monsieur Aurel.
Je dois d'abord remercier notre éditrice, Aude Sirier, qui a pris l'initiative de s'adresser à nous, à deux historiens, pour publier ces sept romans, ces sept textes extrêmement datés du Moyen-Âge, mais qui continuent de nous parler, vraiment, qui nous touchent. Hein. C'est un choix de texte, me semble-t-il, très, très adroit. Et personnellement, je suis très impressionné par la maquette, par la beauté, vous venez de le remarquer, des images extraites pour la plupart de manuscrits médiévaux, c'était une époque où la peinture était dans les livres, mais il y a aussi des images plus tardives. Là, en l'occurrence, vous nous avez montré des images de la période pré-raphaélite, des années 1900, fin 19e, début 20e siècle, où il y a ce retour aux sources arthuriennes qui nous laisse aussi entrevoir la fantaisie qui marque tant nos contemporains.
Oui, nous sommes les auteurs de l'introduction, des notes, des annexes, de deux ou trois essais. Nous ne sommes pas les traducteurs des textes qui sont présentés. Il y a sept romans et donc sept traducteurs différents. Ça n'est pas facile de traduire en français moderne des textes dans les langues vernaculaires du Moyen-Âge. Même l'ancien français ou le moyen français sont difficiles à traduire. On lit parfois plus facilement dans la langue originale que dans la traduction. Donc il y a d'autres auteurs que nous deux, mais nous avons effectué le choix des textes et le travail autour de ces textes, bien sûr. Alors, nous sommes tous les deux historiens. Je crois que c'est un signe en lui-même. Nous sommes plus historiens que littéraires, même si pour les historiens, les textes littéraires sont des documents d'histoire. Il n'y a pas de littérature hors contexte. Chacun de ces romans obéit à un contexte particulier et il fallait absolument les replacer dans un milieu, dans une époque, dans une société. C'est ce que nous avons fait, Martin et moi.
Alors justement, on va démarrer tout de suite avec le premier texte que j'ai trouvé très intéressant. Alors, vous me pardonnerez la prononciation, Kulhur et Olwen. Donc c'est un texte que, finalement très peu connu du grand public et qui est un texte ancien et pourtant qui est une légende arthurienne, puisqu'on a souvent l'habitude de rattacher les légendes arthuriennes à Chrétien de Troyes, au Moyen-Âge, et pourtant, ces légendes, vous le montrez, ont une histoire bien avant Chrétien de Troyes, bien avant le roman arthurien. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce contexte, puisqu'il me semble que ces légendes démarrent dès le 5e siècle, avec ce que vous appelez la résistance bretonne aux envahisseurs venus des mers. Est-ce que vous pouvez nous décrire le contexte dans lequel naissent ces légendes et dans lequel elles se développent, Monsieur Aurel, s'il vous plaît?
Oui, 410, c'est une date qui nous parle parce que c'est le sac systématique de Rome pour les Goths, une ville qu'on croyait imprenable. Eh bien, cette fois-ci, c'est le début de la fin pour l'Empire romain. Et 410, c'est aussi la date où l'empereur Honorius, une de ses ordonnances prévoit que la Grande-Bretagne ne sera plus défendue par les légions venues du continent, mais il confie aux décurions, aux responsables de villes bretons. Quand je parle de Breton, c'est encore la Grande-Bretagne. La Petite-Bretagne viendra bientôt avec, on le verra, les exilés de l'île. Eh bien, la défense est désormais confiée aux Bretons. Alors, les Bretons ont maille à partir au nord de la Grande-Bretagne, au-delà du mur que l'empereur Adrien avait fait construire, une sorte de muraille de Chine, pour se protéger des Pictes, des Scots, des populations qui, désormais, font des raids vers le sud. Mais ce ne sont pas les pires ennemis. Les Bretons ont surtout des problèmes avec les Anglo-Saxons, des peuples germaniques venus du continent, venu de la Saxe, venu de la Frise, du Jutland, hein, de la mer du Nord, qui commence à s'installer dans l'est de l'île, hein, d'abord dans le Kent, et progressivement, ils prennent du terrain au détriment des Bretons. Alors, les Bretons n'ont pas la possibilité de se défendre pour des raisons parfois dues à leur division, des divisions tribales, et ils reculent progressivement. Et il se retrouve dans ce qu'on appelle de nos jours le pays de Galles, c'est-à-dire à l'ouest de la Grande-Bretagne, facile à défendre en raison de ses forêts, en raison aussi de ses monts, hein, de ses collines, les monts Cambriens. Donc nous avons une situation particulière, des résistants face à une invasion anglo-saxonne. C'est curieux parce que cela coïncide avec la disparition d'un fauve, d'une bête mythique, qui ne reste guère que dans les monts Cambriens, justement au pays de Galles, qui est l'ours brun, qui est pour ces gens une sorte de totem. Très souvent, ils projettent aussi leurs croyances. Hein. Les mythes, qu'est-ce que c'est qu'un mythe? Un mythe, c'est un récit offert aux divinités par des populations pré-chrétiennes pour obtenir leur grâce, leur faveur. Et le mot lui-même d'Arthur, ours, c'est la signification, c'est l'homme ours, hein, en langue galloise, en langue bretonne. Or, toute l'histoire de Kulhur et Olwen tourne autour de cette figure qui est Arthur, qui doit conquérir un certain nombre d'objets pour permettre le mariage d'un de ses parents. Il a même adopté par un rite particulier, il lui a coupé les cheveux, il l'a coiffé. C'est très celtique, hein. Il doit donc vaincre ce qu'on appelle à l'époque moderne le nouement des aiguillettes, l'impuissance, puisque ce jeune Kulhur a reçu un mauvais sort de la part de sa belle-mère qui l'a condamné donc à ne pouvoir épouser qu'une seule femme, la fille du géant. Et pour pouvoir l'épouser, le père impose un certain nombre d'épreuves à ses guerriers qui doivent obtenir donc ces objets pour le mariage. Et il y a un moment clé sur lequel Michel Pastoureau pourrait vous parler pendant des heures, puisqu'il maîtrise beaucoup mieux que moi le cochon, le sanglier. C'est la chasse mythique que Arthur, l'ours, mène sur ce cochon qui a un certain nombre d'objets, ne serait-ce que sur sa tête, qui permettront le mariage final. Alors ça finit bien sûr par le mariage, je dévoile le happy end, mais ce qui est intéressant, c'est que avant le mariage, le géant, le père de la mariée, est là encore assassiné de façon rituelle. Et ce n'est pas innocent non plus, puisque la terre d'Angleterre, la terre de la Grande-Bretagne, c'était le pays des logres, le pays des ogres. Et il y a donc les Troyens ou les successeurs de Troyens menés par Brutus qui ont véritablement mis fin à la domination de ces géants. Ils les ont tués et ils ont apporté aussi la civilisation. Il ne faut pas oublier que les Celtes ont apporté, les Bretons, ont apporté en Occident le fer, ce qui leur a donné bien sûr une forte supériorité militaire. Alors tout s'arrête là pour les Bretons, puisque désormais ils sont en perte de vitesse, ils sont en train d'être défaits et ils projettent peut-être sur Arthur ce passé glorieux, mais aussi cette possibilité de résurrection, de restauration de leur pouvoir perdu.
J'aimerais qu'on revienne en quelques mots, Monsieur Pastoureau peut-être pourra nous en parler, sur justement ce nom d'Arthur, homme-ours. Pourquoi ? Que symbolise l'ours ? Est-ce qu'on cherche à mettre en valeur les vertus guerrières du personnage, sa puissance ou les mérites de l'homme qui tue l'ours ?
Oui, Arthur, c'est le roi ours, et l'ours, dans une grande partie de l'hémisphère nord, c'est le roi des animaux, avant qu'il soit remplacé lentement par le lion. L'affaire sera entendue au XIIIe siècle. Mais donc, pour ces périodes anciennes, c'est encore l'ours qui est le roi des animaux, probablement parce qu'un ours est invincible par un autre animal, hein, il n'a pas de prédateur. Les Romains ont essayé, dans les Jeux du Cirque, de voir qui était plus fort, l'ours ou le lion. Soit il y avait match nul, soit l'ours l'a emporté. Un ours, c'est plus fort qu'un lion, en général. Donc, les guerriers, les chasseurs, les princes, les rois ont cherché à capter cette force de l'ours et à s'en faire protéger. On a même un certain nombre de légendes et de mythes qui font des ours des fondateurs de dynasties. Il y a l'idée que l'ours mâle est attiré par les jeunes filles et par les jeunes femmes. Il les enlève, il les viole, et ça donne naissance à des êtres qui sont mi-hommes, mi-ours. Ce sont tous des guerriers invincibles, des fondateurs de dynasties. Au XIIe siècle encore, les rois de Norvège et les rois de Danemark sont très fiers de se faire fabriquer des généalogies dans lesquelles on voit que leur ancêtre le plus lointain est un fils d'ours. Donc Arthur, c'est le roi ours. Son nom même est construit sur la racine du nom de l'ours dans les langues indo-européennes. Arctos en grec, Arthos en breton, Arthur, Ursus, Orsus en latin et dans les langues romanes. Dans les langues germaniques, on a fait un autre choix parce que l'ours est tellement vénéré qu'il ne faut pas prononcer son nom. Il serait furieux. Donc on prend des métaphores, comme chez les Slaves d'ailleurs, Der Bär en allemand, c'est Der Braune, c'est le brun, hein. Et dans les langues slaves, c'est la racine Medvedev, qui est une périphrase, l'amateur de miel, le maître du miel, parfois le grand-père de la forêt. Bref, il ne faut pas prononcer le vrai nom de l'ours. C'est pour ça que dans les langues slaves et germaniques, on a des mots qui ne sont pas la racine indo-européenne du nom de l'ours, mais d'autres choses.
Alors, il y a une bascule importante dans les romans arthuriens, c'est bien sûr la christianisation de l'île de Bretagne. Puisque cette christianisation, vous l'expliquez, va engendrer une transformation des légendes et du personnage d'Arthur. Est-ce que le rapport aux populations celtes et bretonnes au christianisme a changé en profondeur le visage du roi Arthur? Est-ce qu'elles ont spiritualisé ces mythes? Est-ce que finalement, elles n'ont pas cherché à transcender les anciennes vertus guerrières? Monsieur Aurel.
Oui, je voudrais ajouter à ce que Michel vient de dire que l'ours a une qualité aussi, il est capable d'hiberner, de passer l'hiver, donc isolé, il doit dormir, il est dans une caverne, mais on sait qu'avec la reverdie, avec le retour de la floraison du printemps, il retrouve aussi la vie, hein, d'où les rites de fécondité autour de jeunes filles auxquelles Michel a fait allusion. Et c'est aussi une des idées du roi Arthur, il est capable de revenir à la vie, lui qui a été battu à Camelan, avec des blessures létales, hein. Mais il est soigné par des fées aimantes, à commencer par sa sœur Morgane, qui vont lui donner d'une certaine façon la vie, et il va revenir pour restaurer la puissance des Bretons. Alors, ça me permet de revenir à votre question, la christianisation, c'est vrai que ça fait désordre. Un roi qui est mort sans être mort, qui est dans l'au-delà, puisque vous savez que les peuples traditionnels cohabitent avec les morts et que les barrières, grâce à la métempsychose, à la réincarnation des âmes entre les vivants et les morts, ne sont pas du tout nettes. Donc il doit revenir, et un des objectifs de l'Église, des clercs, c'est de montrer que Arthur n'est pas vivant, qu'il est mort et bel et bien enterré. En particulier dans l'abbaye de Glastonbury, hein, à la fin du XIIe siècle. Ce sera la grande affaire du clergé et puis des rois d'Angleterre de parler de son tombeau, de montrer qu'on a redécouvert ses restes. Mais la christianisation passe à une période plus précoce, dans les années 1100, par la mise en forme, on couche par écrit, des histoires des saints qui sont soit de Bretons de Grande-Bretagne, après tout Gilda est un Gallois, mais comme beaucoup de Bretons, il a dû s'exiler en Petite-Bretagne armoricaine à la suite des invasions celtiques. Bon, il y en a qui sont allés jusqu'en Galice, hein, dans le Finistère de la péninsule ibérique. Mais vous avez un saint, par exemple, comme Eflamme, rencontre le roi Arthur dans les Côtes d'Armor, du côté de Perros-Guirec. Gilda, lui, qui a aussi rencontré Arthur, fonde un monastère dans le golfe du Morbihan, dans le sud de la Bretagne. Mais il y a aussi des saints, comme Saint Padarne, par exemple, qui ont affaire à Arthur, parce qu'Arthur leur vole quelque chose. Padarne a une très belle chasuble, une très belle tunique, et qui est... Arthur est un être qui est encore païen, un brave païen, hein, assez bonasse, c'est le colosse... Qui est au fond très gentil, même s'il a une force brute qu'il n'arrive pas toujours à contrôler. Puis il a une convoitise terrible pour les beaux objets. Soit il vole des autels portatifs, soit il vole des tuniques, mais il est toujours puni. Il est puni, bon, d'une façon sympathique, soit la terre l'engouffre, mais jusqu'au cou. Et puis il fait pénitence, il se répand, il se convertit, donc il retrouve sa liberté. C'est toujours le saint qui réussit, par exemple, à vaincre des dragons. Arthur est incapable de se battre contre des dragons. Le saint arrive et il arrive à les lier, hein, à leur mettre une corde au cou, à les dompter, ce que Arthur était incapable de faire. Donc vous voyez, il y a cette espèce de rencontre, parfois conflictuelle, un peu en termes de rivalité, entre le missionnaire, le saint, et le bon sauvage. Et c'est toujours dans ces vies de saints qui ont été couchées par écrit autour de 1100 dans les monastères du pays de Galles, des monastères d'ailleurs où les Normands essaient un peu d'intervenir. Vous savez que les Normands, à partir de 1066, conquièrent l'Angleterre et une partie du pays de Galles. Et dans un regard ethnologique, mais aussi dans un désir de domination, ils essaient de s'approprier tous ces mythes, hein. Donc Arthur, finalement, est christianisé. Oui, je pense que la grande période de la christianisation d'Arthur, c'est surtout la fin du XIIe siècle, avec l'apparition du roman de chevalerie. Mais là, on rentre dans un monde qui est tout à fait différent. Ce n'est plus le latin, ce n'est plus le moyen gallois, mais c'est la langue de la cour, c'est-à-dire le moyen français.
Alors, la question que je me pose, elle est en lien avec ce que vous nous avez dit sur ce Arthur qui revient d'entre les morts. Est-ce que, finalement, cette dimension christique du personnage qui a été combattu par l'Église, elle n'a pas aussi facilité la christianisation de ces populations? Est-ce qu'elle n'explique pas la perméabilité, finalement, des Celtes qui, dans leur mythe, finalement, avaient cette question de la résurrection du héros, de la même façon qu'il y a la résurrection du Christ? Est-ce que le mythe arthurien a pu permettre cette perméabilité du christianisme?
Oui, il est évident que le christianisme, dans les sociétés qu'il essaie d'évangéliser, ne veut pas changer la culture, n'acculture pas, mais inculture. S'inculture, c'est-à-dire, il s'introduit dans un monde qui est susceptible d'entendre ce message. Hein. Et ça marche bien avec le paganisme, parce que le polythéisme, toutes ces forces de la nature, peut être récupéré d'une certaine façon au profit d'un message. Oui, vous faites allusion à la résurrection. C'est vrai que c'est très enraciné dans les anciennes religions, que cette idée du cycle, du renouveau perpétuel de la nature, de l'hiver qui tue et de la renaissance de la nature grâce à... c'est la mort et la résurrection du Christ, bien entendu. Mais je pense que c'est plus complexe que cela pour le roi Arthur, puisque, comme je vous le dis, le roi Arthur est souvent le bon païen qui doit être christianisé. Hein. Je n'ai pas en tête, mais c'est une bonne question que vous soulevez, qu'il soit devenu une image du Christ. Au contraire, c'est toujours l'homme de Dieu, c'est toujours l'ermite, le moine, qui lui apprend à bien se comporter. Je reviens au mythe de l'éternel retour de la nature. Quand Guenièvre est ravie et fait l'objet d'un rapt par une divinité hivernale, maléfique, hein, qui est Méloas, dans cette région marécageuse qui est Glastonbury. Glace, nous dira un intellectuel de la fin du XIIe siècle, Giraud de Barry, ça renvoie au vert. Or, le vert, c'est la transparence, donc c'est l'au-delà, c'est un monde où les morts vivent ou rencontrent les vivants. Hein. C'est aussi une zone marécageuse, le gué. L'eau est aussi un lieu de rencontre avec les morts, avec les esprits, qui peuvent aussi être des divinités, hein, puisqu'il y a ce phénomène, enfin, mon savant, évémérisé. Après leur mort, certains héros peuvent devenir l'objet d'un culte. Eh bien, Gilda, par exemple, ce saint ermite qui est à Glastonbury, met fin à la guerre entre Arthur et le ravisseur de sa femme. Mais bien sûr, on peut utiliser aussi cela comme un mythe, c'est-à-dire l'idée de l'éternel retour, cette divinité, un peu comme Orphée quand il descend dans les enfers, cette divinité qui permet de, en libérant sa femme, en la recouvrant, à la végétation de revenir, hein, de s'épanouir face à l'hiver. Donc, vous voyez, mais je pense que, bien sûr, il y a des ressemblances entre le christianisme et les religions pré-chrétiennes, le paganisme, si vous voulez, mais je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à faire d'Arthur un personnage christique. Hein. J'essaie de réfléchir. Ce sont ces chevaliers, plutôt certains d'entre eux, Galad, par exemple, le parfait chevalier christique à partir des années 1200, qui peuvent être comparés à au Christ, mais certainement pas Arthur, hein, sauf si je me trompe. Il n'y a aucun texte qui me vient à la tête.
J'aimerais, alors justement, cette christianisation, elle passe par une évolution des représentations et par même des représentations du roi. Il y a une très riche iconographie dans ce livre, on l'a déjà dit. Monsieur Pastoureau, peut-être pourriez-vous nous dire quelques mots. Comment représente-t-on Arthur dès lors qu'il est christianisé ?
Oui, à partir de la seconde moitié du Xe siècle, il devient envahissant, le personnage d'Arthur, et puis avec lui tous ceux qui l'accompagnent, sa parenté, ses chevaliers, les lignages associés. Moi qui suis historien, je suis toujours frappé que nos collègues historiens de la littérature médiévale, dans les manuels destinés aux étudiants ou au grand public, consacre le même nombre de pages aux chansons de gestes et aux romans de chevalerie. Or, quand on est historien et qu'on interroge des documents sur la réception des chansons de gestes et des romans de chevalerie, pour un témoignage sur les chansons de gestes, on en a 100 sur les romans du roi Arthur. Donc le déséquilibre est considérable et nos manuels littéraires ne donnent pas une juste idée de ce déséquilibre. On a l'impression que la chanson de Roland et les romans arthuriens, c'est sur le même niveau. Pas du tout. Quand on est historien, et comme moi, plutôt spécialiste de la réception des textes médiévaux, le déséquilibre est énorme. Donc Arthur, c'est une figure considérable dans l'Occident médiéval, à part tout ce qui tourne autour du christianisme, ça vient juste après. Hein. C'est comparable à la mythologie gréco-romaine, presque, vu le nombre de témoignages qui sont parvenus jusqu'à nous. Ça concerne la copie de manuscrits, l'enluminure de manuscrits, des œuvres d'art et de l'iconographie de toutes sortes. Ça concerne les noms des personnages qui sont arthuriens, qui sont adoptés par des personnages véritables. Dès la fin du XIIe siècle, on a des Lancelot, des Perceval, des Gauvin, des Tristan, et ça va devenir de plus en plus nombreux au fil des décennies. Ce sont de bons témoignages sur la réception. Et Arthur lui-même, comme l'a dit Martin, qui est un personnage un peu ambigu, hein, même quand il est christianisé, il garde quelques traits de son caractère païen et ursin. C'est plutôt autour de lui que se passe la christianisation, avec la légende du Graal, notamment, sur laquelle on va sans doute revenir. Oui. Et pour le public, il n'y a absolument aucun regard péjoratif sur un Arthur qui serait une espèce d'ancienne divinité païenne qu'il faudrait combattre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Dans ce qui frappe dans la légende arthurienne, notamment par rapport aux chansons de gestes, c'est que la plupart des personnages ne sont pas tous d'une pièce. Ils sont tous nuancés, ambigus, avec leurs bons et leurs mauvais aspects. Par exemple, Lancelot, c'est le meilleur chevalier du monde, mais c'est un personnage très négatif par bien des aspects. Il est d'une vantardise inouïe, il commet l'adultère avec la reine Guenièvre, qui elle-même est une reine très ambiguë, et plutôt une femme que le public médiéval n'aime pas, par rapport à Iseux, par exemple. Bref, on est dans la nuance, et dans la nuance de nuance, alors qu'avec Charlemagne, Roland, Olivier, Guillaume d'Orange et quelques autres, on est tout d'une pièce. Il y a des bons et il y a des méchants. C'est plus compliqué que ça dans la légende arthurienne.
Alors, pourquoi cette nuance, justement? Est-ce qu'elle est liée, je voulais y revenir un peu plus tard, mais puisque vous en parlez, est-ce qu'elle est liée à une volonté, justement, d'humaniser ces héros, de les rendre proches du public et de ces romans? Ou alors, est-ce qu'il y a une forme de déréliction de la société vis-à-vis des idéaux chevaleresques à cette époque?
Oui, non, ce caractère très nuancé est dû au génie des auteurs créateurs et de tout ce qui les entoure. Donc, c'est de la littérature de très haut niveau. Hein. Bien souvent, bien sûr, il y a des textes un peu situés plus bas dans l'échelle hiérarchique. Mais enfin, en général, on est dans des textes avec des textes de très grande qualité. La mort le roi Arthur, les romans de Chrétien de Troyes, quelques autres textes moins connus. C'est très supérieur aux chansons de gestes du point de vue strictement littéraire, justement parce qu'on est dans la nuance. Et puis, la société est de plus en plus compliquée. Et donc, au moment où on écrit les principaux romans arthuriens, entre la fin du XIIe et le début du XIVe siècle, la société chevaleresque et même la société noble, plus largement, est en perte de vitesse et compense son déclin social, économique, politique en investissant dans le paraître, dans la légende, dans les mythes, dans le culturel, on pourrait dire, aujourd'hui, pour compenser ce déclin. Ça explique d'ailleurs à la fin du Moyen-Âge, cette espèce de revival de la légende arthurienne, là où vraiment la noblesse est en complète perte de vitesse et frappée d'une immense mélancolie au XVe siècle. La noblesse occidentale est dans un état de mélancolie très très avancé et trouve dans les romans arthuriens beaucoup pour se satisfaire et essayer de compenser. Puis ensuite, on va passer à autre chose.
Alors, justement, rentrons un peu dans cet imaginaire arthurien. Vous écrivez, Monsieur Pastoureau, l'imaginaire est tout à la fois le reflet et le modèle de la réalité. Dans ces romans arthuriens, vous nous l'expliquez, la géographie et la temporalité font appel à des lieux bien réels, l'île de Bretagne, l'Irlande, la Gaule, ou alors à des événements bien réels, les invasions germaniques, la christianisation, Rome, la domination romaine. Pourtant, on a le sentiment que tout s'enchevêtre, que on est situé dans un monde entre deux. Est-ce que vous pouvez, que nous raconte finalement cette géographie arthurienne? Qu'est-ce que symbolise ce royaume de l'ogre? Est-ce que c'est le royaume idéal? Est-ce que c'est l'âge d'or? Est-ce que c'est simplement un syncrétisme entre la culture celtique et la culture chrétienne?
C'est plus compliqué que tout cela, c'est-à-dire qu'il faudrait faire du cas par cas. Il y a une géographie générale qui est assez cohérente et qu'on le retrouve d'un roman à l'autre. Et puis à l'intérieur, il y a une géographie plus étroite qui varie selon les auteurs, selon les décennies, selon les sources utilisées. Donc le royaume de l'ogre, en gros, c'est une bonne partie de l'île de Grande-Bretagne, mais pas la totalité. Il y a des royaumes périphériques qui sont ennemis ou alliés d'Arthur, qui, quand ils sont ennemis, il les soumet les uns après les autres. Et les rois qui étaient ses ennemis deviennent ses alliés et ses parents même. Au nord, il y a les peuples dont Martin a parlé, les Pictes, les Scots. Il y a les Saxons qui viennent de la mer fréquemment. Arthur doit affronter les Saxons dans des grandes batailles. Et puis, il y a les Romains qui viennent de loin, plus les personnages qui viennent du continent. Lancelot, c'est un personnage qui n'est pas... Il n'est ni parent ni vassal d'Arthur. Il vient de son propre gré, en quelque sorte, dans l'île de Bretagne, avec ses deux cousins, Bor et Lionel. Bor étant peut-être le personnage que le grand public en général ne connaît pas, mais qui est une des clés de la légende arthurienne, parce que c'est lui le témoin, le narrateur, le seul survivant dans le roman La mort le roi Arthur. Donc c'est lui qui va faire connaître à la postérité toutes ces aventures d'Arthur et des chevaliers de la Table Ronde. Donc on a une géographie assez stable dans ces grandes lignes, mais un peu turbulente dans le détail, en quelque sorte. Mais ça se passe vraiment outre-Manche par rapport à donc, la civilisation d'aujourd'hui, pour l'essentiel, et un petit peu dans notre petite Bretagne, dans notre Bretagne armoricaine. Tristan, par exemple, est un personnage qui a beaucoup à voir avec la Bretagne armoricaine. La Manche est une mer qui est presque un lac. Elle est sans cesse traversée et retraversée, aussi bien dans la fiction littéraire que dans la réalité géographique du XIIe et du XIIIe siècle. Le royaume Plantagenet, il est situé des deux côtés de la Manche. Donc, ce qu'on lit dans les romans, ça correspond à une certaine réalité. On va constamment du continent vers l'île de Grande-Bretagne et dans l'autre sens. Ça va continuer, bien sûr, au fil de l'histoire, mais c'est déjà vraiment très, 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 très fort au XIIe et au XIIIe siècle.
Alors, au XIIe siècle, on a donc un changement de genre, puisque c'est l'apparition du roman arthurien, avec un personnage, Chrétien de Troyes. Monsieur Aurel, peut-être vous pouvez nous dire quelques mots sur ce fameux Chrétien de Troyes. On retrouve deux de ses romans, d'ailleurs, dans le livre, à savoir Yvain ou le Chevalier au Lion et Perceval ou le Comte du Graal. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur Chrétien de Troyes?
Bien sûr. D'une certaine façon, Chrétien invente le roman. En tout cas, le roman existait avant lui, mais il lui donne une dimension extraordinaire. Et il fonde le roman de chevalerie. Puisque, qu'est-ce que ça veut dire roman? Roman, c'est la mise en langue romane, c'est-à-dire en langue dérivée du latin, nos langues occidentales, actuelles, à l'exception de langues germaniques, bien sûr, ou slaves, en Europe, qui viennent donc du latin. Mais les premiers romans, ce sont des traductions des grandes gestes gréco-romaines, par exemple la guerre de Troie. Or, Chrétien innove, Chrétien dit, jusqu'à présent, les jongleurs, les bardes racontent n'importe quoi, morcellent les histoires du roi Arthur. Moi, je sais faire, je vais vous raconter. Il est très fier de son art, mais il a de quoi. Hein. Parfois, il y a des gens qui sont très orgueilleux, mais on admet qu'ils le soient parce qu'ils apportent beaucoup à la littérature. Chrétien a innové. Il est extraordinaire. Vous lisez les deux romans que nous avons choisis. Ça n'a pas pris une ride. Ça nous continue de nous toucher. L'introspection psychologique, par exemple, à juste titre. Tout à l'heure, Michel opposait le roman à la chanson de gestes. Là, nous sommes dans un monde où les personnages sont ambigus, où ils peuvent avoir des réactions inattendues. Il y a aussi de longs monologues de ces personnages. Est-ce que je l'aime? Est-ce que je ne l'aime pas? Comment il va réagir? Chrétien est capable de se mettre dans la peau d'une demoiselle amoureuse. Alors, il faut savoir aussi quelque chose chez Chrétien. Pour lui, le mariage est le lieu, à une exception près, où l'amour courtois doit s'épanouir. Et Yvain, par exemple, c'est l'histoire d'un chevalier qui d'abord tue un autre chevalier qui l'agresse. Sa veuve est furieuse contre lui, mais il réussit à entrer dans son château grâce à l'anneau d'invisibilité qui lui donne... En fait, c'est son défait, hein, que lui donne une femme, une demoiselle d'honneur de l'entourage de la dame du lieu, de l'Odine. La fille s'appelle Lunette. Et elle, petit à petit, l'Odine, la veuve, tombe amoureuse de lui. Donc, grande crise de conscience. Est-ce que je dois épouser ou pas l'assassin de mon mari? Finalement, il se marie. Mais en se mariant, Yvain ne peut plus aller courir les tournois, ne peut plus aller courir l'aventure. Il se sédentarise, il est casé, il est désormais auprès de son épouse. Finalement, l'Odine sent qu'il est très malheureux, le laisse partir à condition qu'il revienne au bout d'un an. Mais Yvain est tellement pris par ses guerres, par ses batailles, par ses tournois qu'il en oublie sa femme. Et c'est terrible, elle est capable, parce que ce sont des faits bien sûr très humanisés, mais elle est capable donc de lui lancer un sort. Il devient fou dans la forêt, et petit à petit, par le contact avec un ermite, il retrouve la raison, et aussi grâce à un médicament, un onguent qui lui est appliqué par une autre fée. Hein. Donc vous voyez, on est dans un monde un peu, c'est le réalisme magique, il y a des détails très précis sur la vie quotidienne de ces chevaliers, des effets de réel. Et c'est pourquoi il plaise beaucoup. Il y a cette réception colossale de ce roman. Et puis, il y a aussi l'aspect psychologique qui est très moderne. Ces gens discutaient, quand ils les écoutaient dans les veillées, ces romans, c'était un octosyllabe, hein, c'est du vers. Donc, c'est fait pour être déclamé. En plus, ce n'est pas du latin, mais de la langue vernaculaire. Donc, l'aristocratie comprend, elle discute, elle débat sur des questions de conscience que se posent les personnages, sur le suspense aussi, hein, c'est très bien tenu, c'est un peu comme les séries, ça s'arrête chaque histoire au climax, au moment de tension maximale, et on passe à une autre histoire, hein, c'est la technique de l'entrelacement, plusieurs histoires qui vont ensemble, mais elles s'arrêtent à chaque moment pour que vous soyez toujours... attentif, vous vouliez savoir ce qui se passe dans l'histoire que vous avez abandonnée, tout en suivant celle qui commence. Donc, vous voyez, on est dans un monde extrêmement moderne. Alors, je vous parlais de fidélité conjugale, sauf, bien sûr, dans le cas de Lancelot, mais Chrétien, qui probablement est en chanoine, un homme d'église, il vous dit, oui, mais je n'y suis pour rien, c'est la comtesse, qui d'ailleurs est la fille d'Aliénor d'Aquitaine, réputation sulfureuse, Marie, épouse donc du comte de Champagne, qui m'a imposé ce sujet. Donc moi, je veux le traiter. Et bien sûr, bon, après, il va décrire par le menu la nuit d'amour de Guenièvre et de Lancelot. Il a très peu de scrupules à ce moment-là. Mais il a une excuse. Et puis, il n'achève pas son roman. Bon, est-ce qu'il a eu de... Je ne sais, on ne peut pas savoir pourquoi il a arrêté. Peut-être a-t-il arrêté deux de ses romans sans les achever, pour que nous les continuions d'une certaine façon, pour que nous continuions de les poursuivre, d'en discuter, vous voyez. Mais bon, c'est le génie absolu, bien sûr, hein, le fondateur du roman, l'introspection psychologique, la beauté de la langue, la capacité de l'intrigue. Chrétien peut être lu et relu continuellement, on ne se lasse jamais de lui.
Alors, en plus de tout ça, le genre du roman va incorporer à la mythologie arthurienne, si on peut dire, une véritable, une généalogie des héros, puisque ces héros ont des enfants, qui ont eux-mêmes des enfants, on a des générations de héros qui se succèdent. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de cette multiplication des chevaliers, Michel Pastoureau, qui font passer le roi Arthur au second plan?
Oui, il y a beaucoup de personnages dans les romans arthuriens. Ce qui frappe le lecteur, c'est l'extrême cohérence de la parenté et l'organisation de cette société arthurienne, pour les personnages principaux, autour de quelques lignages. Il y en a quatre principaux. Il y a le lignage du roi Arthur et de son neveu Gauvain. Hein. Le vrai héros de la légende arthurienne, c'est Gauvain, le neveu du roi Arthur. Il y a le lignage de Perceval. Il y a le lignage de Lancelot, qui, lui, vient du continent. Et puis, il y a le lignage de Tristan. Et sur trois générations d'auteurs, disons, qui se succèdent, tous ces personnages se mélangent. Ces lignages soit entretiennent des liens d'amitié ou d'hostilité, parfois de parenté. J'épouse ta sœur, tu épouses la mienne. Et les auteurs cherchent à combler en amont et en aval l'histoire du roi Arthur et de la génération du roi Arthur. Donc on va raconter d'abord l'histoire de la génération d'après, hein, celle de Gauvain, de Lancelot, de Tristan, puis celle d'après encore, celle de Galahad par exemple. Et puis on va aussi remonter plus haut, celle du père d'Arthur, Uther Pendragon. Parfois même on va remonter encore plus haut. Donc ça s'articule horizontalement et verticalement. Mais ce qui est fascinant quand même, c'est que tout tourne autour de quelques lignages avec des personnages clés qui ne sont pas les vedettes des romans, mais dont on sent bien que ce sont des personnages absolument essentiels. Le plus important étant sans doute la demi-sœur du roi Arthur, la reine d'Orcanie, qui a plusieurs noms, Morgane, Morgaud, Morcadès, peut-être le plus fréquent. C'est sa demi-sœur. Il lui fait épouser le roi Lot d'Orcanie. C'est la mère donc de Gauvain et des frères de Gauvain. Quand ils étaient jeunes et qu'ils ignoraient qu'ils étaient demi-frères, demi-sœurs, Gauvain et Morcadès ont eu une nuit d'amour et cela a donné naissance à un personnage qui est Mordret, le traître de la légende arthurienne, donc qui est à la fois le fils d'Arthur et de sa demi-sœur Morcadès. Je l'appelle Morcadès, mais elle a d'autres noms. Et puis cette même Morcadès, reine d'Orcanie, devenue soit veuve, soit plus ou moins éloignée de son mari, va avoir une aventure avec un personnage beaucoup plus jeune, un des frères de Perceval, la Mora, le plus beau de tous les chevaliers de la Table Ronde. Et donc ça va créer une espèce d'inimitié entre le lignage de Perceval et celui de Gauvain, qui va être une des causes de l'écroulement de l'univers arthurien. Bref, donc, ce qui est fascinant, c'est que ça a l'air compliqué comme ça, et ça ne l'est pas. Les personnages ont une identité, une parenté stable, des caractères relativement stables, et malgré ces généalogies complexes, le public s'y retrouve très bien. Probablement parce que ce public des 12e et 13e siècles est très habitué à mémoriser la parenté et à gérer des généalogies complexes. Nous, nous sommes obligés, pour nous y retrouver, de faire des tableaux généalogiques par écrit, avec quelques hésitations sur certains liens de parenté. Mais je ne pense pas que le public, à l'origine, au 12e et 13e siècle, soit dérouté par cette complexité des relations de parenté. Et tout cela est merveilleusement agencé. Et comme je le disais tout à l'heure, les caractères ne sont pas tout d'une pièce, ce qui fait la magie de cette littérature. Les personnages ont des aspects positifs et pour beaucoup des aspects négatifs. En l'autre, ils évoluent un peu au fil du temps. Par exemple, Gauvain, qui est un personnage extrêmement positif à l'origine, va en se dégradant au fil des décennies dans le courant du XIIIe siècle. Parfois, il devient même odieux dans certains romans de la seconde moitié du XIIIe siècle. D'autres sont coupables de ceci ou de cela, doivent réparer. Lancelot est typiquement le personnage qui est totalement ambivalent, le meilleur chevalier du monde d'un côté, et il a péché avec la reine Guenièvre. En plus, c'est un orgueilleux, un vaniteux, un dissimulé, il veut jamais révéler son nom, c'est un grand péché au Moyen-Âge. On peut même souligner que à cette époque et dans cette littérature, gagner, ce n'est pas une vertu. Hein. Au tournoi, par exemple, et c'est typique dans la légende arthurienne, le vainqueur d'un tournoi, ce n'est pas celui qui a terrassé tous ses adversaires, c'est celui qui a fait les plus beaux coups, même s'il est tombé sous les coups d'un adversaire. Ce sont deux choses différentes. Et ceux qui gagnent tout le temps, comme Lancelot, ne sont pas tellement aimés du public. Et moi, je m'en aperçois quand... À la fin du Moyen Âge, en milieu princier, on joue au roi Arthur et aux chevaliers de la table ronde. On organise des fêtes, des tournois. Donc, les participants incarnent des héros littéraires et on distribue les rôles. Et c'est frappant de voir que de temps en temps, personne ne veut faire Lancelot. Il est trop péjoratif. C'est un bon témoignage sur la réception des principaux héros de la légende arthurienne. Les noms de baptême, les rôles lors des fêtes et des joutes au tournoi, et puis le nombre de manuscrits copiés, d'images consacrées à tel ou tel épisode ou personnage.
Et votre dictionnaire inclus dans ce volume aide beaucoup à s'y retrouver justement dans cet enchevêtrement de personnages et à les comprendre les révolutions. Il y a une autre thématique bien sûr dont on va parler, c'est celle du Graal, puisqu'il y a deux romans consacrés au Graal, donc celui qu'on a déjà cité, Perceval et le Comte du Graal, mais également La Quête du Saint Graal. Cette thématique du Graal, elle apparaît finalement assez tardivement par rapport à l'histoire des légendes arthuriennes, Martin Aurèle. Qu'est-ce que c'est que le Graal? C'est la grande question.
Le terme lui-même apparaît au Moyen-Âge dans des documents de la pratique, dans l'Ancien Testament du comte d'Urgell, un petit comté catalan dans les Pyrénées, où il est question de plat, tout simplement. C'est un mot en apparence qui désigne quelque chose de très banal. Mais en même temps, ces plats, comme c'est un terme peu utilisé, ça peut aussi avoir une signification plus mystérieuse. Et c'est Chrétien de Troyes, le premier, à le mettre en scène dans le conte du Graal, où là, c'est devenu un vase sacré, hein, presque un ciboire, puisqu'il porte l'hostie au père du roi pêcheur, pêcheur avec accent circonflexe, puisque quand Perceval le découvre, il est dans un lac avec sa canne à pêche, et c'est un roi perclus. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des racines mythiques, probablement. Vous connaissez tous les chaudrons d'abondance. Ils apparaissent dans les contes des bardes celtiques, des bardes bretons, qui parlent d'Arthur qui doit faire une navigation, traverser donc la mer d'Irlande ou aller vers des îles fortunées où il y a des talismans extraordinaires qu'il faut récupérer, et en particulier ces chaudrons qui ne cuit que de la nourriture pour les braves, qui rend les armes qui sont trempées invincibles, donc c'est un peu la corne de l'abondance. Mais ici nous sommes dans un contexte qui est déjà très chrétien, hein. Chrétien de Troyes, le bien nommé, bien sûr, en fait un vase sacré qui transporte l'hostie, mais en même temps, il y a tous ces aspects merveilleux, puisque le Graal dégage une grande lumière autour de lui. Mais il y a cet autre roman qui a été publié dans ces volumes, qui est La Quête du Saint Graal. Là, nous sommes dans un contexte monastique, dans un contexte où les moines cisterciens ont eu leur mot à dire, les ordres militaires aussi, et nous sommes dans un roman qui est extrêmement religieux, hein, où il y a des longues digressions, enfin je ne vais pas décourager les lecteurs de le lire, mais autour des commentaires symboliques, liturgiques, et puis des recommandations morales autour de la chasteté, autour de l'humilité, qui est bien entendu la vertu clé dans le christianisme. Et nous sommes dans une ambiance où la quête du Graal, c'est la quête du Christ. Même le Graal lui-même, c'était le vase, apprend-on, où le Christ avait célébré la scène, ou avait consacré pour la première fois le pain et le vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang. C'est aussi ce vase qui a servi à Joseph d'Arimathie, l'un des notables qui ont enterré le Christ, à prendre son sang au moment de la crucifixion. Et ce vase, donc, est parti vers l'ouest, vers la Grande-Bretagne, mais il revient aussi à Jérusalem. Donc, on est aussi dans l'ambiance des croisades, hein, des chevaliers profondément chrétiens qui veulent exercer leur violence qu'ils considèrent légitime pour reprendre les lieux saints, donc Jérusalem, qui est le lieu où le Graal est né. Donc, on est dans une ambiance extrêmement religieuse où le seul qui peut réussir à voir le Graal, et il en mourra d'ailleurs, grâce à cette messe finale célébrée par un évêque descendu du ciel avec le Graal, et Galad, hein, qui est le chevalier parfait, même s'il est né, mais peut-être sa naissance est significative aussi de son côté surnaturel. Il est né des amours illicites entre Lancelot et la porteuse du Graal, qu'il croyait être Guenièvre. Donc, vous voyez, on est dans une ambiance très, très chrétienne. Et c'est un roman qui sert à convertir. Poésie et conversion, c'est bien sûr les gens du Moyen-Âge véhiculent des messages chrétiens à travers la littérature en apparence profane.
Alors, un roman destiné à convertir, Arthur a une autre facette, c'est aussi un personnage qui devient politique, puisque vous consacrez une étude à ce sujet à la fin du livre. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce Arthur politique? On s'approprie la figure d'Arthur pour se légitimer, et qui se l'approprie?
Oui, ce qui est très frappant, c'est qu'au début, bien sûr, c'est le paladin, c'est le héros de la résistance bretonne contre les anglo-saxons, contre les anglais, mais progressivement, dès la fin du XIIe siècle, alors que le roman de chevalerie a un peu banalisé le personnage, ou en tout cas l'a rendu plausible ou attirant pour la chevalerie du continent et de l'Angleterre, anglo-normande, eh bien, les Anglais d'origine normande, d'origine angevine, Richard Cœur de Lion en particulier, commencent à s'approprier la légende. Il y a un texte d'un chanoine de la cour ou de Henri II, le père de Richard, qui fait d'Arthur le roi, non pas des Bretons, mais des Anglais. Il s'appelle Roger de Hobden et il change d'un manuscrit à l'autre cette mention. Et là, il y a un glissement, bien sûr, qui est extraordinaire. Le plus affreux de rois d'Angleterre, me semble-t-il, en tout cas pour les Écossais et pour les Gallois et pour les Irlandais aussi, qui est Édouard Ier, dans les années 1300, quand il conquiert, après sa bataille contre Braveheart, contre William Wallace, l'Écosse, il justifie la conquête par une enquête qu'il fait mener par ses intellectuels, par ses scribes, où il va faire de recherches pour montrer que Arthur, c'est son ancêtre, et non pas l'ancêtre des Gallois. Il a lui-même récupéré la couronne, la prétendue couronne d'Arthur qui se trouvait au pays de Galles et l'a amené en grande pompe à Westminster, à son palais de Londres. Il essaie donc de justifier la conquête de l'Angleterre par sa propre généalogie. Vous voyez, la conquête de la Grande-Bretagne, de toute la Grande-Bretagne. C'est sûr que c'est un glissement extraordinaire. Michel parlait de ces tournois. On a un de ses objets qui servait à ces grandes fêtes, qui est sa table ronde à lui, qu'il a fait peindre à Winchester pour se mettre en avant en tant que roi arthurien. Il aimait les fêtes. Même certains de ses châteaux, paraît-il, sont une imitation mythique de Tintagel ou des grands châteaux arthuriens. Donc, il récupère à tout prix ce personnage qui devient vraiment un roi anglais et non pas breton.
Alors, on retrouve, Michel Pastoureau, peut-être pourriez-vous nous en parler, on retrouve cette mythologie arthurienne jusque dans les armoiries des grands. Je rappelle que vous êtes quand même un spécialiste de l'héraldique. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots à propos de ces emblèmes arthuriennes?
Oui, il y a une héraldique arthurienne qui est abondante, qui est cohérente, qui est à la fois le reflet et le modèle de l'héraldique véritable parfois. Elle se forme en différents strates. On s'aperçoit que, peut-être pas chez Chrétien III, mais dans la génération qui a suivi, les principaux personnages reçoivent des armoiries, décrites en général à l'occasion d'un tournoi ou d'une bataille, que ces armoiries se stabilisent d'un roman à l'autre. Hein, et si on fait une coupe horizontale vers 1220, par exemple, on s'aperçoit que une trentaine de personnages importants des romans arthuriens ont déjà des armoiries qui ne changeront plus jusqu'à l'époque moderne, voire contemporaine. Puis une deuxième couche apparaît tout au long des décennies du XIIIe siècle. On peut faire une deuxième coupe vers 1300, 1320. On s'aperçoit que là, de 30, on est passé à 60, 70. Des personnages du deuxième plan, voire de troisième plan, ont reçu des armoiries relativement stables. Et puis, ça continue au XIVe et au XVe siècle. Des comparses, des personnages de troisième zone, qui sont simplement mentionnés dans une liste de quêteurs du Graal ou de participants à un tournoi, reçoivent aussi des armoiries. Et le tout aboutit à la compétition, à la compilation de listes dans la seconde moitié du XVe siècle, auxquelles on peut donner le nom d'armoriaux des chevaliers de la Table Ronde. Quand j'étais jeune, je les avais recensés. J'en avais trouvé environ 70, 75 pour la période 1440-1520 à peu près. Donc environ 150, 180 chevaliers de la Table Ronde ont des armoiries relativement stables. Et on retrouve ces armoiries non seulement dans les textes, au moins pour les personnages principaux, mais aussi dans les images. Hein, ça sert d'attribut iconographique dans les miniatures, notamment pour nous dire qui est qui. On ne peut pas ne pas reconnaître, grâce aux armoiries, Arthur, bien sûr, Gauvin, Lancelot, Perceval, Tristan, mais aussi des personnages un peu moins importants, Sagremort, Dinadan, l'orgueilleux de la Lande et quelques autres. Et puis des personnages de quatrième zone reçoivent aussi des armoiries. Et on peut essayer, à partir de ce stock, donc 150, 180 écus, de faire des statistiques sur les couleurs, les figures, la composition de ces armoiries. Et là, l'historien dispose d'un bon matériel pour étudier la symbolique héraldique. Avec les armoiries véritables, on a toujours du mal à savoir pourquoi telle famille, tel personnage porte telle couleur, telle figure, travailler au cas par cas. Et quand on ne trouve pas d'explication cohérente, historique, dynastique, on cherche des explications ésotériques, on a tort. Mais avec les armoiries littéraires, et spécialement les armoiries arthuriennes, on peut mettre on peut faire une relation entre ce qu'on sait ou ce qu'on croit d'un personnage et les figures et les couleurs qui lui sont attribuées. Et là, on a prise sur cette symbolique héraldique, une symbolique ordinaire, hein. Il n'y a absolument rien d'ésotérique. Les animaux ont leur symbolique habituelle, les couleurs aussi. Il y a les bons et les méchants, il y a les nuancés, il y a les agités, il y a les calmes. Fascinant de voir comment le roi Arthur, c'est un roi statue presque. Hein. Il est assis à sa cour et il bouge pratiquement pas. Puis autour de lui, il y a des personnages qui s'agitent et ça se lit dans leurs armoiries. Par exemple, Sagremort, le desserré, c'est-à-dire l'excité, celui qui est souvent hors de son sens. Il a des armoiries bichromes avec des traits en zigzag qui indiquent vraiment le mouvement, l'excitation. Il y a des cas comme ça. Donc on a pris, c'est ça que je veux dire, on a pris sur la symbolique des couleurs et des figures grâce à l'héraldique arthurienne, qui va continuer à l'époque moderne. Hein, on va retrouver dans l'iconographie victorienne, tapisserie, la peinture chez Burne-Jones, par exemple, les mêmes armoiries que dans les miniatures du XIIIe siècle.
Alors nous arrivons à la fin de cette rencontre. Pour conclure, j'aimerais vous poser une question à tous les deux, pour le coup. Qu'est-ce qui explique Arthur ? C'est une légende millénaire, les romans arthuriens sont millénaires. Pourtant, il continue à passionner. On le voit, il passionne encore, on le retrouve encore des références arthuriennes dans les films, dans la littérature contemporaine, même dans les jeux vidéo ou encore dans des séries télé. Qu'est-ce qui explique, selon vous, la permanence de ces légendes et de ces mythes ? Qu'est-ce qui fait encore leur succès et qu'est-ce qui fait peut-être leur actualité ? Monsieur Aurel.
Alors, oui, donc je dirais qu'elle nous parle parce qu'il y a quelque chose de très profond. Je parlais de mythes tout à l'heure. On parle parfois des archétypes, hein, des structures de pensée qui sont profondément enracinées chez tout être humain. Bon, par exemple, la reverdie, le cycle de l'éternel retour. Donc cet aspect, je pense qu'il nous touche profondément. Après, il y a le côté chevaleresque, héroïque, le rapport à la vie et à la mort à travers la guerre, qui est quelque chose qui fascine tout être humain. C'est un réservoir de récits auxquels on peut donner de la forme. Les gens du Moyen-Âge parlaient de matière de Bretagne. Qu'est-ce que c'est que la matière pour un penseur du XIIe, XIIIe siècle? C'est une sorte de masse informe, de tohu-bohu, où on peut donner une forme. Chrétien dit une conjoncture, c'est-à-dire on peut adapter ce récit à la sensibilité d'une époque déterminée, que ce soit Alexandre Astier dans Camelot ou Thierry Guillaume dans Sacré Graal, on y trouve toujours son compte, c'est vrai, avec la projection de nos passions actuelles, de notre imaginaire collectif, mais les récits sont toujours là, c'est un ensemble de contes que l'on peut réutiliser. Donc ça continue de nous toucher, évidemment.
Monsieur Pastoureau, à vous le dernier mot. On a besoin de héros arthuriens ?
On a besoin de rêver, surtout. C'est une littérature qui fait rêver. Moi, je l'ai découvert, j'avais 7-8 ans, j'aimais les cow-boys, j'ai cessé d'aimer les cow-boys pour admirer les chevaliers. Et ça ne s'est jamais interrompu depuis. Une littérature qui fait rêver parce que rien n'est jamais totalement expliqué. Les choses sont laissées parfois en suspens ou à l'interprétation du lecteur. Le Conte du Graal, par exemple, de Chrétien de Troyes, est un roman inachevé. C'est un coup de génie que ce soit inachevé. C'est peut-être involontaire, sans doute, parce que Chrétien est mort. Mais du coup, ça donne une valeur exponentielle à cette histoire qui n'a pas de fin. Les romans arthuriens sont vraiment le contraire des romans réalistes ou positivistes. Ce sont des histoires oniriques, des histoires qui invitent au rêve, et ces personnages sont à la fois des reflets, des modèles, autre chose, et nous en avons besoin, et dans nos sociétés contemporaines, par certains côtés bien éloignés du rêve, c'est une thérapie que de s'intéresser à la légende arthurienne.
Et c'est pour ça qu'il faut se plonger dans Les Chevaliers de la Table Ronde, roman arthurien, donc chez Quarto Gallimard, auquel vous avez tous les deux participé. Je vous remercie, merci infiniment. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir.